contenu.
Ça, c'est ce que je ressens. Et puis, c'est ce que je veux vous dire aussi, même si vous êtes chez vous. Alors, je vais m'asseoir. C'est juste parce qu'il faut que je sois gentil avec mon pied. Hop, ça y est. Je suis assis. Est-ce que ça marche comme ça avec ce micro-là? Tout le monde m'entend bien? Tu m'entends aussi bien? C'est impeccable. Ok. Alors, c'est vraiment une grande joie d'être parmi vous aujourd'hui et durant, voilà, depuis et hier soir déjà, on a eu l'occasion avec Marie-Geneviève, mon épouse, de donner notre témoignage. Et c'était vraiment bien et on est heureux d'être encore avec vous aujourd'hui pour partager ce culte et écouter ce que le Seigneur a sur nos cœurs. Merci en tout cas de votre confiance et d'accepter de m'écouter. Vous aurez tout à l'heure, comme je vous l'ai promis, un petit cadeau. Donc sur le thème que je vais évoquer ce matin, vivre en paix dans un monde troublé. Ça vous rassure? Bon. Avant le message, j'avais une pensée pendant le temps de louange. Nous sommes dans le pays du bois, j'ai appris. Si vous deviez choisir quel genre d'arbre vous aimeriez être, quel genre d'arbre voudriez-vous être, vous, les gens du bois, du pays du bois?
Donnez-vous.
Hein?
Un pin.
Un pin. Oui. Quoi d'autre?
Un chêne.
Un chêne, oui, tant qu'à faire, oui.
Un séquoia.
Un séquoia.
Un bouleau.
Oui. J'ai entendu l'arbre que j'attendais déjà. Non. Quelqu'un l'a dit. Mais au milieu de la forêt, on ne l'a pas entendu. Un palmier. Vous savez la différence entre le palmier...
C'est pas un
arbre. Non, hein. Mais vous savez la différence entre le palmier et tous les autres arbres qu'on trouve ici? Oui, mais il y a une autre différence fondamentale.
Il n'y en a pas dans le Jura.
Il n'y en a pas dans le Jura, oui. Si, si, il y en a, vous êtes là. En fait, les arbres, et je pense que vous n'allez pas me contredire, hein, sinon, avant de me lapider, je demanderai pardon. Les arbres, en général, poussent par ce qu'on appelle l'aubier. Vous êtes d'accord avec ça? Et malheureusement, nous avons vécu ça il n'y a pas si longtemps dans notre région, à Vitrolles, où des gros incendies ont ravagé les quelques forêts qu'il y avait autour de chez nous. Et donc les arbres ne s'en remettent pas. La grande différence avec le palmier, c'est que le palmier pousse par le
cœur.
Exactement. Alors c'est ça la différence, c'est que le palmier n'est pas épargné par l'incendie lorsqu'il vient, mais malgré l'incendie, malgré l'épreuve, malgré la désolation environnante, il peut continuer d'être vert en haut, parce que justement il pousse par le cœur. Et j'ai vu des photos de palmiers réduits par des incendies de forêt dans les palmeraies, et puis qui étaient verts en haut, juste parce que comme ils poussent par le cœur, le feu, tant que le feu n'atteint pas le cœur, il continue à pousser. Et c'est ça que nous sommes appelés à être, des palmiers, des hommes et des femmes qui poussent par le cœur. Voilà, vous méditerez cette pensée. Dans Jean chapitre 14, au verset 1, et puis au verset 27, deux phrases de Jésus lors d'un enseignement qu'il donne comme une sorte d'héritage qu'il veut laisser à ses disciples. Il dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et puis il finit ce discours au verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est de ça que j'aimerais un petit peu parler avec vous ce matin. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai, jusqu'à quelle heure j'ai?
2 heures.
2 heures? Bon, j'aurai le temps de faire l'introduction alors. 40 minutes? Ok. De toute façon, ce que je n'ai pas le temps de vous dire sera écrit. Comme ça, ça marche. Donc, vous pouvez m'arrêter quand vous en avez marre. Hein? Voilà. Donc, ce texte m'a vraiment interpellé. Je l'ai partagé un peu hier de comment j'ai trouvé la paix en adoptant Dieu comme mon papa. Mais ce texte a aussi largement contribué à créer en moi, pas simplement de poursuivre la paix, de rechercher la paix, comme nous dit la Bible, mais de devenir un homme de paix. Et ça, c'est quelque chose qui est comme une sorte de cadeau, de don. Vous savez, comme moi, ce qu'a dit François d'Assise, hein, d'être, il en a fait une prière même, d'être un artisan de paix. Mais je crois, en méditant bien ce qu'il disait, cet homme, je crois qu'il a vraiment réalisé qu'il ne s'agit pas de se forcer à être dans la paix. Ce n'est pas une sorte de technique spirituelle pour être à un bon niveau de spiritualité. C'est d'être intérieurement touché par la paix de Dieu au point que notre manière d'être et notre manière de vivre est changée. Vous me suivez ? Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas naturel dans l'humanité, notre nature pécheresse, mais qui devient naturel dans qui nous sommes en Jésus-Christ. Ça fait partie de notre ADN d'enfant de Dieu, d'être des hommes et des femmes de paix. Et c'est pour ça que Jésus prend du temps pour enseigner cette chose. Alors, comme ça a déjà été dit, et comme c'est dit tellement de fois dans tous les médias, nous savons bien que nous sommes dans des moments troublés, et nos contemporains sont de plus en plus troublés. Et je constate, à ma tristesse évidemment, que les chrétiens aussi sont de plus en plus troublés. Et du coup, ça m'amène à réfléchir et à comprendre pourquoi ce trouble qui peut aller jusqu'à la déprime, voire la dépression, et qui touche tant de gens. Ma question, en fait, c'est de savoir si c'est justifié que nous soyons et que nous restions troublés, nous qui appartenons au Seigneur, sans émettre un jugement de valeur sur nous, sans nous condamner, sans juger que ce soit cela, mais c'est nécessaire si on veut avoir le bon diagnostic et poser le bon traitement, d'être lucide sur la vraie situation. C'est juste ça. Et du coup, ça nous interpelle sur quel est le socle, quel est le rocher sur lequel repose notre assurance et notre paix. Et il me semble que c'est important de temps en temps de se reposer cette question. Par exemple, est-ce que le fait d'être au milieu d'un monde troublé et trouble justifie de nous laisser troubler ? Est-ce que c'est choquant, voire même de la folie ou de l'inconscience, que de rester dans le calme et la confiance de l'Éternel, dans le repos et la paix de Dieu, même au milieu de la tempête ? Je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça m'arrive parfois dans les relations avec les gens, dans les moments où j'ai travaillé aussi dans le monde séculier, de presque voir les autres choqués, interpellés, voire même en colère, que je puisse rester en paix alors qu'ils étaient troublés. J'étais un être anormal, insensible aux difficultés et à tout ce que vit la société. C'est ça qu'ils avaient le sentiment, que ça représentait pour eux, alors que bien sûr que non. Mais lorsque les gens sont entraînés dans, je dirais, dans la tourmente de leur vie, ils ont envie que vous soyez dans la tourmente. Et si vous n'êtes pas dans la tourmente, vous les dérangez. Puisque pour eux, votre paix est quelque chose de tellement inaccessible que ça les choque, ça peut les mettre en colère. Jusqu'à ce point. Et pour autant, est-ce que sous prétexte d'être aux côtés du monde, d'être dans la compréhension, dans la compassion, dans l'accueil de l'autre, nous devons, pour faire le pont avec lui, nous laisser nous aussi troubler pour qu'il sente qu'on est comme lui. C'est une question, n'est-ce pas ? Ésaïe 30 le rappelle, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Puis il ajoute cette petite phrase adressée au peuple à l'époque, vous ne l'avez pas voulu. Donc en vérité, la question n'est pas de le pouvoir, nous ne le pouvons pas. La question, c'est de le vouloir. Sauf qu'il nous arrive dans la vie qu'à force de ne plus pouvoir certaines choses, nous finissons par ne plus les vouloir, sans nous en rendre compte. Et donc notre défi va être de le vouloir tout en acceptant que c'est Dieu qui doit le faire en nous, que sa paix qui surpasse toute intelligence doit venir et que nous devons trouver dans cette paix-là eh bien, ce qui va construire notre foi et notre vie ici-bas. J'ai noté quelques petites phrases que vous retrouverez. La paix humaine s'inscrit dans le raisonnable, alors que la paix de Dieu s'inscrit dans la foi. La paix humaine trouve sa force dans la foi en l'homme. La paix divine trouve sa force dans la foi en Dieu et en Christ. La paix humaine s'acquiert par l'effort. La paix de Dieu se reçoit. La paix humaine se paye. La paix de Dieu s'accepte gratuitement, car Christ en a payé le prix. Il est notre paix. Ce sont les paroles de Christ lui-même. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Alors je me suis posé une question. Pourquoi Jésus dit-il cela à ses disciples ? Ben parce qu'ils sont troublés. Sinon, il n'y avait pas besoin de leur dire. Ils sont troublés parce qu'il n'arrête pas de leur expliquer qu'il va s'en aller, qu'on va le mettre à la croix, qu'il va ressusciter, toutes ces choses-là qui sont... Non, ils l'ont, ils veulent se garder, quoi. Et lui, dès qu'il commence son ministère, il commence à leur dire « Bientôt, je vais m'en aller. » Bon, et en même temps, dans le même chapitre, « Je vais m'en aller, mais je vais revenir. » Ils sont complètement dévariés. Alors, Jésus leur annonce son départ, et eux, ils ont peur de perdre leur chef. Ils ont peur d'être démunis face à la tâche qu'il leur confie. Je pense que j'aurais été exactement comme eux. Et puis, ils sont dans une situation sociopolitique compliquée, avec l'emprise de l'Empire romain, le rejet subi par les religieux, la précarité liée à des taux d'imposition abusifs. C'est marrant, on se croirait au XXIe siècle. Ils ont des raisons humaines d'être troublés. Et comprenez bien que Jésus ne nous reproche pas d'avoir humainement des raisons d'être troublés. Mais il ne nous donne pas raison de rester troublés. Mais il nous donne des solutions. Jésus comprend leurs troubles. Et il va les amener à comprendre et à accepter de ne pas s'enfermer dans le trouble pour entrer dans une autre dimension de la foi en lui. Jésus ne va pas nous reprocher, le Seigneur ne va pas nous reprocher si nous sommes troublés. Mais il nous dit, ne reste pas dans le trouble, viens recevoir ma paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Et du coup, une autre question, pouvons-nous, au regard de la Bible, de la parole de Dieu, prendre autorité pour déclarer que le trouble pour nous croyants est entendable sans qu'il soit acceptable ? Pouvons-nous accepter que notre héritage soit d'être dans la paix et le repos de Dieu en dehors de toutes circonstances et contingences humaines ou même diaboliques ? Vous me suivez ? C'est une petite histoire que j'avais lue dans un témoignage à propos de Smith Wigglesworth, qui était un évangéliste fin 19e, début 20e. Dans sa biographie, il était raconté qu'il était un jour donc dans une chambre d'hôtel et puis il dormait. Et puis d'un coup, il est réveillé dans la nuit, il y a un drôle de bruit. Et au pied de son lit, il voit une forme sombre qu'il reconnaît comme un démon. Alors il regarde et il lui dit « Ah, ce n'est que toi !» Il se tourne et il se rendort. Jésus ne reproche pas à ses disciples d'être troublés, mais il les amène à détourner leurs yeux et leur cœur de ce qui les trouble pour tourner leur regard et leur pensée vers Dieu. En vérité, ce que nous regardons et la manière dont nous le regardons va influencer notre manière de penser et de vivre. Ça veut dire d'une autre manière, comment est-ce que je vois les choses qui m'entourent et est-ce que c'est ce qui m'entoure qui fait qui je suis, ou est-ce que c'est ce qui est à l'intérieur de moi qui fait qui je suis? Est-ce que c'est l'aubier de l'arbre qui fait ma bonne santé ou le cœur du palmier? C'est là qu'est la vraie question. Souvent, notre réalité à nous, elle est dans ce que nous voyons et concluons, et ça devient notre vérité. Mais le regard humain, notre regard, mon regard, est souvent tronqué, alors que le regard divin, lui, est vrai. Et ça nous ramène à cette notion de pouvoir déposer les choses que je ressens, qui m'apparaissent comme telles, qui sont ma réalité, pour laisser la vérité de Dieu venir changer ma réalité. Ma réalité peut être que je suis très troublé. Mais la vérité de Dieu, c'est que sa paix dépasse tout cela. Et que si j'accepte de prendre sa paix, ma réalité va changer. Ça ne veut pas dire que l'environnement ou les circonstances vont changer, mais ma réalité face à cela va changer. Rappelez-vous ce que disait Samuel lorsqu'il est envoyé pour oindre un nouveau roi pour remplacer Saül. L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté à propos d'un grand frère de David. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et très souvent, si nous sommes troublés, en tout cas pour ma part, c'est que la réalité que je regarde m'amène à être troublé. C'est juste humain, normal. Mais la vérité que Jésus m'apporte, eh bien, me conduit à sa paix. Donc, notre combat n'est pas contre, mais pour. Nous pouvons nous épuiser à vouloir lutter contre le trouble. Je refuse d'être troublé, je refuse d'être troublé. Ok. Mais je vous encourage plutôt à dire, je reçois sa paix, je reçois sa paix. C'est moins épuisant et plus efficace. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat spirituel, comprenons-nous. Mais quand je suis moi dans la paix face à l'ennemi, comme disait un ami, quand l'ennemi te dit « viens, battons-nous, viens te battre », et puis on peut lui dire « bon, ben, commence tout seul ». En fait, cette affirmation que votre cœur ne se trouble point est à la fois une affirmation, mais c'est une sorte d'ordre. Et lorsqu'il donne un ordre, il n'y a que deux choix, obéir ou désobéir. Il ne faut pas regarder cet ordre comme quelque chose d'enfermant, évidemment, là je vous taquine un peu, mais comme quelque chose qui nous interpelle d'une manière solennelle et qui vient nous confronter nous-mêmes à nos propres troubles. Alors, si vous êtes d'accord, je vais partir du principe que vous êtes d'accord, vu qu'on a retiré le café. Donc, je ne peux pas vous dire d'aller boire un café et de revenir après. On va essayer de réfléchir un tout petit peu sur cette parole que Jésus donne comme clé d'être dans la paix. La clé qu'il donne, c'est « croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Et s'il dit cela, c'est qu'il y a des raisons précises. Alors, la première chose, c'est « croyez en Dieu ». Mais quel Dieu ? Ce que je voudrais partager maintenant, c'est l'idée de nous donner du sens. Je ne voudrais pas juste qu'on reparte d'ici en disant « bon, il faut qu'on obéisse ou qu'on soit dans la paix ». Ça n'a aucun sens. Mais l'idée, c'est quel sens cette parole a pour moi ? Et comment je peux donner à cet ordre, à cette parole forte de Jésus, du sens dans ma vie ? Pour le comprendre. Pourquoi il le dit ? Il a des raisons de le dire et c'est justifié. Alors, quel Dieu ? Ben, le Dieu créateur qui nous a conçus, et qui nous connaît parfaitement. Le Dieu souverain, le Dieu juste, le Dieu saint, plein de tendresse, de compassion pour ceux qui se réfugient en lui. Vous aurez toutes les références bibliques dans le texte que je vous laisse avec. Voilà pour quelle raison, quel Dieu c'est ? Et puis, pour quelle raison puis-je et dois-je croire en lui ? Alors, il y a des lois naturelles qui sont établies et dont l'observation nous permet de comprendre leur sens, leur raison d'être. Le fait que Dieu nous ait créés à son image pour avoir en nous un vis-à-vis à aimer. Ça nous dépasse. Et pourtant, c'est inscrit en nous le besoin d'être aimé. Et nous ne sommes satisfaits que lorsque ce besoin est pourvu. J'ai remarqué d'ailleurs que la source majeure, c'est le manque d'amour dans la plupart de nos souffrances intérieures, dans nos maladies physiques également. C'est reconnu aujourd'hui par les chercheurs. Le rejet peut être aussi une cause directe de la plupart de nos souffrances psychiques. L'amertume liée au rejet augmente également cela, et tous ces ingrédients-là peuvent nous priver de la paix de Dieu. Blaise Pascal disait « Il y a dans le cœur humain un vide en forme de Dieu. Nous sommes faits par Dieu et pour Dieu. » Et lorsque nous saisissons ces choses-là, lorsque nous les accueillons, nous les acceptons, eh bien, ça nous donne aussi un bon terrain pour trouver et recevoir sa paix. Je peux croire en Dieu parce que je suis libre et ma foi est la porte que j'ouvre à Dieu pour l'accueillir. Il pourrait s'imposer à nous pour dire « Je t'ai créé, je fais ce que je veux, tu n'as rien à dire, tu es mon objet, tu es ma marionnette. » Mais Dieu n'est pas cela. Il nous a créés libres, comme il est lui-même, et c'est lorsque nous sommes dans l'acceptation de cette liberté d'une relation voulue et harmonieuse avec lui que nous trouvons aussi la paix qu'il nous donne. Et ce sont la confiance et l'amour qui sont les ingrédients de base de notre foi, et c'est dans cette confiance et cet amour délibéré que nous pourrons alors grandir et trouver sa paix. Qu'est-ce que croire en Dieu va changer en moi ? Ce qui est clair, c'est que croire en Dieu change les choses et surtout nous change de l'intérieur. Je reviens un petit peu aussi à mon palmier comme cela. Notre vie intérieure et notre paix intérieure ne vont pas venir de l'extérieur, ne vont pas venir de l'environnement. Ça, je crois que la plupart d'entre nous l'ont compris. Jamais. On peut le chercher, passer notre vie à le chercher, mais ça va être très aléatoire. C'est de l'intérieur que ça va se faire. Et en fait, ce changement de la présence de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, ce que Jésus appellera dans Jean 3 la nouvelle naissance, recevoir l'Esprit de Dieu, on en a parlé ce matin, on s'est réjoui qu'il soit notre Consolateur, va engendrer en nous une autre manière de vivre. Et ce n'est pas le changement d'habitude qui signifie le changement de cœur, c'est quand ce changement vient de l'intérieur. Si nous ne changeons que ce que nous faisons, ça ne va pas nécessairement changer ce que nous sommes. Mais si Dieu peut venir et intervient dans nos vies, alors ce que nous sommes va changer et du coup, ça va avoir une influence, un impact direct sur ce que nous faisons et la manière dont nous allons vivre et nous comporter. Je crois que par rapport à Dieu, lorsque Jésus dit « Croyez en Dieu », il sait que c'est une et la grande clé qui va nous permettre dans ce monde troublé de pouvoir trouver la paix. Du coup, tu peux déposer ce qui te trouble aux pieds du Seigneur. Tu peux décider de croire en Dieu et de faire de sa vérité ta vérité face à tout ce qui est autour de toi. Jésus dit ensuite, croyez aussi en moi. Alors on peut se poser la question, on l'a déjà posée d'ailleurs, n'est-ce pas suffisant de croire en Dieu ? Dieu n'est-il pas assez grand pour avoir besoin de quelqu'un de plus ? Pourquoi avons-nous aussi besoin de croire en Jésus ? En fait, nous avons besoin de croire en Dieu le Père, Créateur, et en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et dans la Bible, c'est indissociable. Tout au long de la parole de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament et bien sûr dans le Nouveau Testament, nous voyons comment ils fonctionnent ensemble et comment ensemble ils sont indissociables pour que nous puissions avoir cette paix dont nous avons besoin. Nous avons vu en quel Dieu nous croyons et pourquoi. J'aimerais en quelques mots dire pourquoi il est juste de croire en Jésus-Christ. Alors, je fais comme ça un petit pointage, vous retrouverez aussi dans la brochure. Il est l'envoyé de Dieu pour notre salut, son Fils unique. Il est le Dieu invisible, incarné pour vivre au milieu des hommes. Il est notre avocat auprès du Père. Il nous aime et nous communique l'amour du Père. Il est mort et ressuscité pour nous. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est la présence de Dieu en nous. Il est digne de confiance pour ses actes et pour ses promesses tenues. Il est la certitude de l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Voilà pour moi un socle qui justifie et qui stimule et qui pose ma foi en Jésus-Christ. Pourquoi il est nécessaire de croire en Christ ? Là aussi, il y a plusieurs réponses dans la parole de Dieu, je vous en donne quelques-unes. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nul ne vient au Père que par lui. C'est par lui que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est en lui que se trouve notre plein pardon et notre entière rédemption. C'est grâce à lui que nous recevons la vie de Dieu pour l'éternité. C'est lui seul qui répand l'Esprit Saint sur nous qui croyons. C'est lui qui accomplit ce qui, impossible aux hommes, est possible à Dieu. C'est uniquement et pleinement par ses meurtrissures que nous avons été guéris. C'est lui qui prend nos prières pour les amener au Père, afin qu'elles soient exaucées. C'est lui qui est chef de l'Église, qui est son corps. C'est en lui que se trouve la plénitude de vie, l'amour et la paix dont nous avons tant besoin, jusqu'à même dire « Je suis la paix ». Celui qui nous prépare aussi une demeure dans la maison de Dieu, notre Père Céleste, c'est lui qui reviendra nous chercher pour nous amener avec lui et vivre à ses côtés pour l'éternité dans la présence de Dieu. C'est en Christ que nous sommes aimés, pardonnés, acceptés inconditionnellement. Les trois choses si précieuses dont nous pouvons nous passer pour vivre et nous épanouir. Christ est notre pardon total, notre vie nouvelle parfaite, notre protection parfaite, notre espérance parfaite. Moi, je vous encourage, je dois vous confesser que je continue régulièrement à prendre ces paroles clés qui m'ont construit et qui continuent de construire ma vie et ma foi dans le Seigneur. Lorsque la tentation vient, lorsque l'accusation vient, lorsque l'accusateur veut m'assaillir, j'ai compris que la meilleure arme pour moi, c'était de proclamer ce que Dieu est pour moi, de déclarer ce que Christ est pour moi. Ça, c'est le plus efficace. C'est la méthode que Jésus a utilisée, d'ailleurs. Il a employé et il a cité parole contre parole du Père lorsqu'il était dans ce moment de combat et de tentation. Et il m'arrive de redire, de reconfesser tout à nouveau, « Seigneur, merci parce que j'ai en toi un pardon total. » J'ai en toi une vie nouvelle parfaite. J'ai en toi une protection parfaite. J'ai en toi une espérance parfaite. Quels beaux ingrédients pour être en paix dans ce monde troublé. Et l'apôtre Pierre, qui lui-même a vécu des périodes troublées dans sa vie, n'est-ce pas ? En particulier à Gethsémané et juste à la sortie du jardin de Gethsémané et jusqu'au feu de camp, lorsque le coq a chanté. Il était plutôt troublé, le frère, là, hein ? Il l'a même encore été après, avec la pêche miraculeuse. Et il l'était encore quand Jésus dit « Viens, viens, il faut qu'on cause tous les deux. » Qu'est-ce qu'il va me faire ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Quelle drôle de pédagogie pour reprendre Pierre, n'est-ce pas ? Et c'est Pierre qui va nous encourager et nous bénir en nous proposant vraiment de nous laisser, de faire confiance à Dieu et de recevoir sa grâce et sa paix. Et puis l'apôtre Jean, qui était si proche de Jésus, dira que nous devons bannir de nos cœurs toute crainte. L'amour parfait bannit la crainte, tout ressentiment, toute amertume à l'égard de Dieu contre lui. Nous pouvons avoir des moments dans nos émotions où nous ne sommes pas contents. Et nous avons le droit de le dire à Dieu. Nous avons le droit de dire à Dieu, « Là, Seigneur, je ne suis pas content. » Mais si nous laissons le mécontentement s'enraciner en nous, la première chose qui va nous voler, c'est la paix. Il y avait des fois où Jésus n'était pas content hein, dans les évangiles. Oui, c'est vrai. Hein. Des fois, vraiment pas content du tout, d'ailleurs. Mais je ne crois pas qu'une seule fois, il ait perdu sa paix. Et même lorsque Il dira au Seigneur, Seigneur, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Non pas ma volonté, mais la tienne. Même là, il a puisé sa force dans la paix du Père pour lui. Et ce que le Seigneur attend de toi, de moi aujourd'hui, c'est que tu décides non seulement de croire en lui, en Christ, mais que tu décides de le croire, lui, et de croire Jésus-Christ. Voyez la nuance ? Croire en quelque chose, croire en quelqu'un qu'il est capable de, mais croire l'autre. Croire Jésus, croire Dieu. Ce que Jésus déclare doit devenir ce que tu déclares et ce que tu vis. Croire Christ, c'est le suivre d'une façon concrète, pratique. Pas dans une pratique religieuse, mais dans une relation vivante, dans une manière d'être, dans une manière de penser et d'agir. Soyons lucides, notre nature pécheresse n'aime pas la paix. Caïn a été le premier à le démontrer. Pourtant, moi je suis jaloux de Caïn. Vous savez sur quel truc ? Abel, en tout cas c'est pas écrit, Abel, Dieu n'est jamais venu faire un rendez-vous spécial avec lui. Pour lui dire, allez Abel, on va manger l'agneau ensemble. Mais un jour, Dieu est venu parler direct à Caïn. Vous savez ce qu'il lui a dit ? Le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Nous nous rappelons de Caïn, comme un meurtrier évidemment. Mais avant qu'il devienne ce meurtrier, Dieu avait voulu lui parler, avait voulu l'aider dans ce trouble qui était le sien, dans son mécontentement, dans sa frustration. Dieu est venu pour lui parler. Et malheureusement, Caïn n'a pas su faire, parce que cette nature pécheresse n'aime pas la paix. Elle est en conflit avec Dieu, elle nous met en conflit avec nous-mêmes et avec les autres. Je me souviens d'une dame de l'église à Montpellier où j'ai été pasteur il y a des années de cela maintenant. Et un jour, on avait une discussion, on buvait le café. Et puis, ce n'était pas forcément quelqu'un de très paisible. Et puis, on buvait le café. Et puis elle racontait un truc, et puis elle en rajoutait, et puis ils étaient tous méchants, mauvais, pourris, tout ce que vous voudrez. Et puis moi je dis, mais peut-être qu'en fait, non, c'était peut-être pas ça, peut-être qu'il y a eu un problème et il n'a pas pu faire. Et puis il me dit, il y en a marre avec toi. Je dis, ah bon, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, il faut toujours que tu leur trouves des excuses. Et elle ne supportait pas que je sois en paix, quand elle était complètement énervée. Ça l'énervait, profondément. Bon, j'ai fait avec, hein, je l'aimais toujours. Mais ça vous montre que, hein, ça vous parle peut-être, ça. Hein? La Bible nous demande de faire mourir cette nature pécheresse, de refuser ces sollicitations qui trouvent une terre favorable, soit dans l'égoïsme, dans l'orgueil, dans la vanité des choses, de la nature humaine. Et moi le premier, comme vous, eh bien je suis toujours de temps en temps confronté à ça. Ces sollicitations, elles se présentent à moi. Là, tu aurais franchement raison au feu de te mettre en rang et lui rentrer dans le pare-choc. Non, ça c'est qu'à Marseille, dans le Jura, on ne fait pas ça. Commence à donner la priorité à la vie de Christ en toi. La vie avec Dieu, nous rappelle la parole, c'est l'amour, la joie, la paix en Jésus-Christ, et tout le contraire, bien sûr, de la haine, de l'amertume, de la vanité. Alors j'aimerais conclure avec cette interpellation peut-être. Ton oui, veux-tu décider de croire ? Je ne suis pas en train de dire là que peut-être vous n'êtes pas des croyants. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais veux-tu décider de croire au sens de dire que ton oui va ouvrir l'accès à ce cadeau merveilleux que nous avons aussi dans Jean 14, 27. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Es-tu décidé de croire ? Veux-tu croire que cette paix que Jésus te donne, c'est un oui et que par cette paix-là, tu peux devenir victorieux, vainqueur. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas du combat dans la suite de ta vie, mais partir vainqueur parce que sa paix est plus grande, sa paix est plus forte. Parents, est-ce que vous avez fait l'expérience que lorsque vos enfants viennent et sont tout énervés, tout agités parce qu'ils ont un gros problème, mais un vrai très gros problème, parce que leur petit copain ou leur petite copine à l'école leur a tiré la langue. Ça, c'est vraiment un gros problème en maternelle quand même. Et puis, vous les prenez dans vos bras, vous leur dites « calme-toi, ça va s'arranger », etc. Et puis d'un coup, vous les voyez et retrouvent leur joie de vivre. Ils oublient ce gros problème. Parfois, il y a des vrais problèmes. Il y a l'hamster qui est mort. Là, vous avez le choix de dire « bon, c'est pas grave, je vais t'en acheter un autre ». Ça ne va pas forcément le consoler. Mais vous pouvez dire « ah oui, je comprends, tu l'aimais tellement ton hamster, tu aimais jouer avec lui, blablabla, blablabla. Viens et vous le prenez dans vos bras, vous parlez un petit peu. » Puis d'un coup, la paix revient. Ou bien il pleut à torrent. Il pleure, l'enfant, parce qu'il en prend plein. Vous ouvrez le parapluie, vous mettez sous le parapluie. Et d'un coup, vous êtes là. Et il est en paix. Ou bien il vous énerve parce qu'il vous demande 5 fois par jour. C'est quand mon anniversaire? C'est quand j'enverrai mon nouveau vélo? Et vous lui promettez. Et comme vous êtes des parents qui tenaient vos promesses, eh bien, il repart rassuré, il est en paix, parce qu'il sait que vous allez faire ce que vous avez dit. Et c'est comme ça avec Dieu. Il y a des moments de ma vie où je suis troublé. Là, en janvier, j'étais pas très en forme à la gare de Paris, avec le pied double fracture, mais ça m'a fait tellement de bien d'être au milieu de ces urgences avec des gens qui criaient dans tous les sens et puis de pouvoir dire « Seigneur, c'est tellement bon d'être dans ta paix. » Bon, il y avait un peu l'occupant qui soulageait mon pied, mais c'était quand même bien. Et c'est là qu'on voit la différence. C'est pas quand on n'a pas les mêmes épreuves que les autres, on les a, mais dans ces moments-là, sa paix est notre soulagement, notre protection. Elle est un cadeau. Et j'aimerais ce matin vous encourager à prendre ce cadeau. Jésus ne reprend pas sa paix. Je me souviens quelqu'un un jour qui me dit « J'ai perdu la paix de Dieu ». Je dis « Mince, tu l'as mise où ? Attends, on va la chercher. » Il ne nous la reprend pas. Garde cette paix, repars avec, prends-la avec toi chaque matin. Partage-la tout au long de ta journée. Que ça soit comme une espèce de réflexe, vous savez, comme on prend nos clés. Enfin non, ça c'est aléatoire, on ne les prend plus maintenant, avec les doigts ça marche. Mais les smartphones, il faut encore les prendre. Et si on n'a pas son smartphone, l'angoisse. Oui, parce qu'il fait tout, hein, aujourd'hui il fait téléviseur, ouvre-boîte, enfin tout quoi. Ce matin, le Seigneur voudrait vraiment qu'on apprenne ça. Chaque matin, prends sa paix. Prends sa paix avec toi et garde-la avec toi tout au long de sa journée. Et puis quand quelque chose vient te confronter, quand quelque chose veut te la voler, défends-la, protège-la, parce que c'est le plus beau cadeau que le Seigneur veuille te faire pour assumer ta vie quotidienne. Cette paix est plus grande, plus forte que toutes les haines et les rancœurs auxquelles elle a à faire face. Et il y en a, des rancœurs, des haines auxquelles nous sommes amenés à faire face. On nous dit « sois zen ». J'en ai vu des gens qui se disaient « zen ». Mais dès que vous les titillez là où il ne faut pas, ils ne sont plus zen. Hein, parce que c'est cette paix qu'on se construit humainement, cette paix qu'on essaye de fabriquer par nous-mêmes. Et celle-ci, elle dure un peu jusqu'à épuisement du stock. Mais la paix de Dieu, Cette paix si puissante, elle nous est renouvelée jour après jour. Pour toi-même, dit l'apôtre Paul, recherche la paix, poursuis-la. Vis de et dans la paix de Christ dans ce monde troublé. C'est possible, Dieu t'aime. Amen. J'aimerais juste prier avec vous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour à la fois cette promesse qui est en même temps un ordre. Et Seigneur, souvent on voit dans ta parole que tu donnes ce que tu ordonnes et tu ordonnes ce que tu donnes. Alors merci parce que tu as donné ta paix et tu continues de la donner aujourd'hui. Je prie spécialement, Seigneur, que tu viennes toucher ceux qui, ce matin, ont besoin de trouver ou de retrouver la paix en toi. Seigneur, merci parce que ton onction de paix descend maintenant sur les cœurs, sur les vies. Je la proclame en Jésus-Christ. Je prie vraiment que par ta puissance, par ton esprit, tu viennes installer cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, cette paix qui nous permet d'affronter les tempêtes et les défis de la vie en nous sentant bien, en nous sentant au plus profond nous-mêmes en sécurité. Même s'il peut y avoir des larmes sur nos joues, dans nos cœurs, merci parce que cette paix est plus grande. Merci parce que c'est cette paix qui a ramené le calme dans la barque avec la tempête des disciples. Et c'est cette même paix qui ramène le calme dans nos barques au milieu de nos tempêtes. Seigneur, je prie vraiment que tu fasses du bien, que tu entoures de tes bras d'amour et de grâce mes frères et sœurs ici. Et vraiment que ta paix les inonde, Jésus. Amen. Alors voilà, je vous laisse donc ça. Vous pouvez partager. Il y en a une bonne quarantaine. Prenez déjà au moins un par famille. Puis après, s'il en reste, le reste, je le laisse là parce que je l'ai amené dans le train. Donc, je vous laisse. Et puis, si ça vous intéresse, je fais chaque jour une petite vitamine matinale. Donc, c'est sur Facebook. Mais vous pouvez le recevoir par SMS ou par mail si vous voulez. Il suffit de téléphoner, de m'envoyer un SMS et puis vous me dites si vous voulez l'avoir par SMS ou par mail, si ça vous fait envie. C'est juste une petite pensée quotidienne, voilà, pour encourager les gens, j'espère. Je fais ça depuis quelques années et puis je reçois des bons retours, alors je me dis autant le partager avec vous aussi. Voilà, peut-être. Ça, on le mettra par là. Oui, les gens le prendront s'ils veulent, je le laisse là. C'est parce qu'il est retourné dans l'autre sens, regarde.